un des grands détracteurs de Maïmonide, c'était Rabbanou Yona, qui vivait peut-être un siècle après lui. Et Rabbanou Yona a ordonné qu'on brûle tous les livres de Maïmonide. Sur la grande place de sa ville, je crois qu'il était en Espagne, au sud de la France. Quelques années plus tard, le roi de France, à Paris, a ordonné ce qu'on appelle le brûlement du Talmud, de brûler tous les livres de Talmud en place de grève, à Paris. Rabbanou Yona a fait le rapprochement entre les deux. Il s'est dit, si dans le monde il arrive une chose pareille, qu'on ordonne, un roi ordonne de brûler les livres du Talmud, c'est parce que moi j'ai ordonné il y a quelques années de brûler les livres de Maïmonide. J'ai fait Tchouva. Et il a écrit un livre entier qui est le must beast en la matière. Beast, d'accord, t'as le premier et t'as le deuxième, les deux must en la matière. Charé Tchouva, les portails de Tchouva. C'est un livre extraordinaire qui, je crois, dernièrement a été traduit en français. Mais il est long, il est dur. On va prendre le Rambam qui est vraiment plus facile d'accès. Alors Maïmonide nous dit, toutes les mitzvot de la Torah, que ce soit les mitzvot positives ou négatives, qu'un homme ou une femme aurait pu transgresser, que ce soit de façon involontaire ou volontaire ou même préméditée. C'est quoi préméditée? Ça veut dire exprès. On a trois termes dans la Torah. Chet, avon, pesha. Chet, c'est involontaire. Tu ne savais pas que c'était interdit. Ou tu, par exemple, tu savais qu'il était interdit d'allumer la lumière Shabbat, mais tu oublies que c'était Shabbat. Sur les toilettes, la nuit, tu vas aux toilettes, tu allumes la lumière, truc classique, d'accord. Tu te rappelles, c'est Shabbat. C'est pas volontairement, c'est Shabbat, j'ai la lumière, tant pis. Non, c'était involontaire. Volontaire, c'est que tu sais que c'est Shabbat. Et néanmoins, tu dis, je ne vais pas faire le crétin maintenant, uriner dans le noir, j'allume la lumière. Ça, c'est volontaire. Exprès. Et puis ce truc-là, le Shabbat, c'est crétin. Allez, tac, 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 il se met à allumer et éteindre comme ça, rien que pour embêter. Là, c'est déjà exprès. Ça s'appelait pécha. Chet, involontaire. Avon, volontaire. Pécha, exprès. Si quelqu'un a transgressé un péché, quel qu'il soit de la Torah, négatif ou positif, donc négatif, on sait, c'est 365 lois négatives, ne pas manger de porc, ne pas bouillir de la viande ensemble, ne pas mentir, ne pas voler, tous les ne pas qu'il y a dans la Torah, il y en a 365, où il a transgressé une loi positive, c'est-à-dire qu'il aurait dû faire une chose qu'il n'a pas fait, il n'a pas mis les tefillines, il n'a pas fait le Birkat Hamazon, il n'a pas fait le Lulav, il n'a pas fait le Shofar, il n'a pas mangé la Matzah à Pessah, etc. Alors, il peut réparer. Comment? Nous dit Maïmonide, lorsqu'il fera Tchouva et se repentira de son péché, il a l'obligation de faire le vidouille. Vidouille, c'est un mot qu'il faut apprendre par cœur parce que je n'aime pas la traduction française et les connotations un peu chrétiennes, c'est confession. Mais confession, c'est franchement trop à l'église. Donc, on va dire vidouille. Vidouille, on va expliquer dans quelques minutes comment on fait le vidouille. Là, j'aimerais m'attarder une seconde sur la terminologie de Maïmonide. Maïmonide dit, Kshayaseh Tchouva, lorsqu'il fera Tchouva, Veyashuv Mecheto, et se repentira de son péché. Comme s'il y aurait deux étapes. Faire Tchouva, c'est se repentir. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il se repentira, il se repentira de son péché. Il y a ici une redondance. Alors on va expliquer. La Tchouva n'est pas une chose que nous pouvons faire de façon programmée. On verra plus tard, quelqu'un qui dit, je vais faire Tchouva, je vais pécher. Après cette Tchouva, cet été, je suis en Israël, Elat. Il y a des filles, il y a la plage, il y a des boîtes, et c'est interdit. Bon, heureusement, Dieu a bien fait la chose que Yom Kippour, c'est pas au mois de juin, c'est au mois septembre, au mois d'octobre, après l'été. Donc, on va faire les malins après, Kippour, un cours du Rav Shaya sur Internet, on répare la Tchouva, on peut tout réparer, machin, je vais faire le crétin pendant 2-3 mois. M'éclater, puis après on va tout réparer, Tchouva, Yom Kippour, je vais pleurer comme il faut, et voilà, heureusement que Dieu a créé la Tchouva, hein, miséricordieux, il comprend que Dieu, que l'erreur est fatale, comme je l'ai dit, etc., donc, femme fatale, femme au pluriel, fatale au pluriel aussi, et voilà, ça marche pas, c'est marqué que celui qui dit comme cela, alors on l'empêche de Tchouva, et Yom Kippour n'explique pas, pourquoi? Alors, Maïmonide va dire, quand on dit cela, c'est pas que ça empêche complètement, mais ça rend très difficile. On va t'empêcher du ciel, on va... Pourquoi? La Tchouva, c'est un cadeau. c'est une lumière spéciale qui vient de ma Neshama, donc de Dieu, dans moi. Moi, c'est plus bas que Neshama, c'est Ruach. On a trois niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama. Neshama, c'est divin. Mais moi, je ne suis pas au niveau de ma Neshama. Il faut que, par miracle, par bonté de Dieu, par miséricorde, tout à coup, comme ça, de façon très inopinée, tout à coup, il y a une lumière qui vient de ma Neshama, donc de Dieu, par ma Neshama, dans mon Ruach, dans moi, et un appel, un regret, une envie de se purifier, une envie de faire un bilan de la vie, etc. On ne peut pas programmer cela. Je ne peux pas dire dimanche, lundi, mardi, ou juin, juillet, août, je fais le crétin, septembre, je fais le tchouva. Vient septembre, allez, ou mercredi, comme je dis, maintenant je regrette. On verra qu'une des conditions sine qua non de la tchouva, c'est le regret. On ne peut pas avoir un regret sur commande. On ne peut pas programmer un regret. Un regret, c'est que tu as changé. Tu étais là, maintenant tu es là. Alors tu regrettes comment tu étais. Mais si tu es même au niveau, tu ne peux pas être là, tu vois, attends, je regrette ce que j'étais. Comment tu regrettes? Tu es le même. Donc, il faut qu'il y ait cette lumière qui vient de Dieu et qui met dans un état spécial de recherche de pureté, de sainteté, de lumière. Ça, c'est le premier terme de Maïmonide. Que j'ai assez de tchouva. Lorsqu'il fera tchouva, il sera en état de recherche, de se rapprocher. Là, il va faire son bilan. On arrive à la deuxième terminologie de Maïmonide. Veyashuv mecheto. Il fera tchouva de son péché. Il se rend compte maintenant qu'il a fait le crétin. Alors il prend maintenant, il regarde maintenant tout ce qu'il a fait, il dit « Oi, ça c'est pas bien comme j'ai fait. » D'abord il y a, première phase, une situation de retour général à Dieu. J'ai envie de me rapprocher, j'ai envie de me purifier, je suis en recherche de sens, en recherche de faire le bien. Après, je fais mon bilan et là je vois ce qui ne va pas. Et nous dit Maïmonide, lorsqu'on verra ce qui ne va pas, « Veyashuv mecheto » de son péché, « Chayav l'idvadot » vient la mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah d'après Maïmonide de faire tchouva. Il n'y a pas, dans les mitzvot positives, 248 mitzvot positives qu'il y a dans la Torah, il n'y a pas de mitzvah de faire tchouva. Ça n'existe pas. C'est pas marqué dans la Torah, et tu feras tchouva. Alors
même, pour ceux qui sont souriés dans la Torah, ils pourraient ne pas avoir accès.
Attends. D'abord que tu dis, il faut pas se tromper. C'est faux de dire que ceux qui ont toujours été dans la Torah, ils n'ont pas besoin de faire tchouva. Tchouva, c'est pas quelqu'un qui a fait les 400 coups. Tchouva, et Maïmonide va le dire un peu plus tard aussi ici, va dire l'essentiel de la tchouva, c'est au niveau des midot. Au niveau des traits de caractère, t'as au niveau des péchés, mais au niveau des traits de caractère aussi, quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est envieux, ça n'existe pas ça. Chez les religieux, t'en as aussi. Donc la tchouva, c'est un retour à Dieu qui est infini, vu que Dieu est infini, donc il n'y a pas, simplement, c'est quoi tchouva? T'étais à un niveau, tu montes de niveau. Ça s'appelle tchouva, quelqu'un aime sa goya, il la quitte, il a fait tchouva. Ah, il n'est pas encore religieux. Mais il a fait tchouva, de la goya. Baba Salé, il faisait tchouva. Baba Salé. Il y avait un rabbin. Un gaon, à une époque, les Maïmonides, Rabbi Noyan, tout ça, on parle ça des Rishonim. Rishonim, c'est une période qui va entre l'an 1000 et l'an 1500. Avant eux, il y avait ce qu'on appelle les Géonim, traduction en français, les génies. L'époque des Géonim qui va environ 700 ans de l'ère chrétienne jusqu'à l'an 1000 de l'ère chrétienne. Période de 300 ans qui s'appelle les Géonim. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rav Saadia Gaon, qui était un gaon, un génie, un sadique. Il faisait tchouva tous les jours. Pourquoi? Il en boit tous les jours, Chassé Shalom? Non. Il faisait tchouva, parce qu'il avait atteint un degré si haut aujourd'hui, il faisait tchouva, il ne doit pas avoir été hier au degré haut qu'il est aujourd'hui. Il regrette son niveau qu'il était hier. Donc tchouva, c'est pour tout le monde. Si Moshe Rabbeinu parle dans sa Torah, à sa génération de tchouva, au peuple d'Israël, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Donc, la tchouva concerne tout le monde. Alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc il n'y a pas de mitzvah de tchouva. Il y a, pourquoi il n'y a pas de mitzvah? Parce que c'est clair qu'il faut, tu as fait des bêtises, il faut réparer. C'est une chose qui est claire. Simplement, on te dit, il y a le mitzvah. Quand tu voudras réparer, là il y a le mitzvah, comment faire? Là vient la mitzvah. La mitzvah assez de la Torah, la mitzvah posée de la Torah, elle est le vidouille. Très important. Pourquoi très important? Parce que, on a dans le Shulchan Aruch, a été tranchée la chose suivante. Mitzvot, tsrechot, kavana. Les mitzvot doivent être faites avec intention. On parle des mitzvot de la Torah, de Horaïta. Les mitzvot qui sont marquées noires, souvent dans la Torah. Donc 248 positives. N'ont une valeur de mitzvah que si elles sont faites dans l'intention de faire une mitzvah. Quelqu'un vient à table, un jour de printemps. Il voit qu'à la place du pain, il y a des galettes. Il mange les galettes, les matzot, parce que c'est ce qu'il a mangé. Il s'avère que c'est le soir du seder. Il y a le mitzvah de la Torah de boire, de manger des galettes, des matzot. Maintenant, lui, il le fait maintenant sans intention. Pourquoi il mange la galette? Parce qu'il a envie de manger. C'est ce qu'il a mangé, c'est ce qu'il mange. Il ne pense ni à la matzah, ni à la Torah, ni sorti d'Égypte. Il n'a pas fait la mitzvah. Bien que techniquement, il y a eu mastication, déglutition et digestion, pour nous, ça ne vaut rien du tout. Pour la Torah. Mitzvot sechot kavana. Quelqu'un maintenant à Kippour. Durant Kippour, on fait 12 fois le vidouille. Entre guillemets, la confession. Si le type, il lit maintenant tout, il a pleuré à son Yom Kippour. Il est debout, en tremblant tout Yom Kippour. Il était super kadosh, un ange. Mais il n'a pas pensé, quand il faisait le vidouille, je vais maintenant la mitzvah de la Torah de vidouille. Eh bien, il a raté cette mitzvah. Il est en plein Kippour, il rate la mitzvah maintenant. 12 fois, il a raté. Donc, pourquoi je vous dis maintenant cela? Quand on fait le vidouille, pas forcément à Kippour, tous les jours, enfin, après la prière, on fait le vidouille, en tout cas, à Shachrit et Mincha, Ana Hashem, etc. Hashamnu, Baganu, Gazanu, ça, c'est un vidouille. On doit penser, je fais maintenant la mitzvah assez de la Torah, de vidouille. Sinon, ben, c'est de la lecture. C'est sympa aussi, tu auras aussi du mérite d'avoir la lecture, c'est gentil, c'est bien de lire en pleurant le sidour. La mitzvah de Bidou, tu ne l'as pas fait. Donc, vu que c'est la mitzvah de la Torah, il est important de se rappeler, la mitzvah, ce n'est pas la tchouva. Tchouva, c'est évident qu'il faut la faire. Mais il ne faut pas rater la mitzvah, quand on fait tchouva, de faire le vidouille. Et penser qu'on fait la mitzvah de la Torah. C'est une grande mitzvah qui est dommage de rater. Comment fait-on le vidouille? Alors on dit, le Rambam va nous donner maintenant, c'est quoi le vidouille? Comment on le fait? On se met debout et on dit, Ana Hashem. Ô Dieu, Khatati, Aviti, Pachati, j'ai péché, 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 les trois sortes de péchés que j'ai cités auparavant, involontaire, volontaire et exprès.
On dit l'inondation, quand on dit.
Oui, bien sûr. La seule fois où on ne le dit pas, c'est dans le Moussaf de la Chazara de Yom Kippour, où le Char Tzibour tout seul va citer le vidou que faisait le Kohen Gadol, le grand prêtre, au temple. C'est un Seder Avoda. Et là-bas, il va rappeler 10 fois en tout le nom de Dieu. Le Kohen dans le temple, rappelle le nom de Dieu, mais quel nom de Dieu? Pas le nom que nous disons aujourd'hui, Ato, mais tel qu'il est écrit, Yudke Vavke, le nom ineffable. Il correspond aux 10 sphères. Dans le Sidour, c'est marqué. Quel nom, avec quel point il le disait. Et lorsque Bnei Yisrael entendait le nom ineffable sortir en pureté, et en sainteté la bouche du Kohen Gadol, sa genouillesse prosternait et tombait à terre et disait Baruch Hashem Kvod Marto Lambadi. Nous faisons la même chose. Alors quand le Chartibour il dit, alors il dit Ana Hashem. Il ne va pas dire le vrai nom. Il dit Hashem, Hashem le nom. Ok? Entre parenthèses, dernièrement, quelqu'un m'a écrit sur le mail et m'a dit pourquoi est-ce que quand on dit le nom de Dieu, en français, on met des points ou des tirets IEU? Alors ce n'est pas un nom kadosh. Il dit ça vient de la racine Zeus, Zeus donc le dieu grec. Et on n'a rien à faire de Zeus, d'accord, on peut la retirer, ça n'a rien du tout, c'est la Vodazara. Je lui ai dit, à mon avis, c'est pas du tout de la racine Zeus que ça vient. Beaucoup de choses chez les Français viennent de l'hébreu. Une infinité de mots sont, j'ai toute une liste que je suis en train d'ailleurs de, chaque fois que j'ai un nouveau mot comme ça, je le marque, j'en suis à quelques dizaines déjà, de noms français qui sont vraiment de l'hébreu. À mon avis, le nom de Dieu provient de l'hébreu aussi. Pourquoi? Le nom de Dieu, c'est quoi? Yudke Vavke, qu'on peut écrire aussi Yud, et puis Hei, et puis Vav. Comment j'écris Yud? I. Comment j'écris Hey? E. Comment j'écris Vav? U. I-E-U. Alors, c'est le nom de Dieu. Avec le temps, ils ont appelé le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. À mon avis. Mais peut-être que je me trompe, c'est basé que sur moi-même. D'accord? Donc ça a une certaine sainteté aussi.
En anglais,
God, par exemple, God. J'ai point. Alors, le Chaye Adam, c'est un décisionnaire ashkenaz il y a 150 ans, il a dit que même si on écrit le nom de Dieu dans une langue où ça n'a aucun sens, tel que Gott en allemand ou God en anglais, alors effectivement, il faut le mettre avec point. Allah, c'est carrément juif. Allah, c'est elle. Elle, c'est le nom de Dieu. D'accord? Voilà. Donc, comment sommes-nous? Alors, donc, on parlait de Anachem. Donc, ô Dieu. Rata, te abedi pachat. J'ai péché des trois façons, involontaire, volontaire, exprès. Vasit, kar, vekar. Et j'ai fait ça. Il faut préciser quoi? Évidemment, on le fait à voix basse. Parce que t'as ton voisin. Tu couches avec la femme de mon voisin. Faut pas qu'il entende. D'accord? Il va pas être content. Même en français. Même en français. Quelqu'un qui ne sait pas le dire en hébreu, il dit en français. C'est toujours mieux en hébreu, mais s'il ne sait pas. Tant. L'essentiel maintenant, c'est comprendre ce que tu dis. Si quelqu'un il lit en hébreu, il ne comprend pas, mais vaut qu'il lise en français, c'est évident. Le mieux, c'est comprendre ce qu'on lit en hébreu. Ce qui est possible aussi. Et donc, il faut préciser quel péché on a fait. Vare, et voici, nichamti. Je regrette. Veboshti, j'ai honte. Bemaasai, de mes actions. Olorlam, eni choser davarze, et pour l'éternité, je m'engage à plus jamais transgresser cela. Vezer, ukaro, chevelou, c'est l'essentiel du vidouille. Trois étapes. Reconnaître. Donc, à voix haute. À voix haute, je veux dire, en parlant. Tu peux dire ça en chuchotant, mais il faut qu'il y ait ici une expression. C'est vrai que dans les cas extrêmes, quelqu'un, il est sur son lit de mort. Avant de mourir, il faut faire tchouva, il faut faire le vidouille, on fait le vidouille. Quelqu'un qui est agonisant, vient un rabe ou quelqu'un approche, lui dit, écoute, beaucoup de gens ont fait le vidouille et ont survécu. Beaucoup sont morts sans faire le vidouille. Fais le vidouille, tu n'as rien à perdre. Il ne faut pas dire que quelqu'un fait le vidouille, parce que là, tu lui dis, t'es mort, tu le tues. Beaucoup de gens ont dit le vidouille et ont survécu. Mais tu ne perds rien à le faire. Il fait le vidouille, on fait faire Shema Israël, tout un texte qu'il faut faire à quelqu'un qui va mourir. Donc il est important de faire tchouva au moins le jour de sa mort. S'il ne peut pas, il a un tuyau dans la bouche, une sonde. Alors, même en pensée, c'est valable. A priori, quelqu'un qui peut le dire en parlant, c'est mieux le dire en parlant. Donc, première étape, reconnaître. Deuxième étape, regretter et avoir honte. Si quelqu'un arrive à un niveau extraordinaire de rougir de son péché face à Dieu, là, c'est nickel. C'est la plus belle chose qu'il puisse y avoir. Troisième, prendre sur soi de façon totale, plus jamais je reprends, je referai cela. On reviendra sur ces détails un peu plus loin. Tout celui qui va rallonger, ça c'est l'essentiel. Maintenant, tu vas rallonger. Je regrette, et comment j'ai pu faire ça? Mais quel crétin j'ai été, oh Dieu, je t'en supplie, aide-moi à remonter, je regrette ce que j'ai fait, et j'ai fait ça, et j'ai fait ci, et j'aurais pu faire autrement, et j'ai fait comme ça. Rallonger. Comment tu vas t'excuser à quelqu'un? Tu as mis du poil à gratter dans son lit. Ça fait 10 ans que tu lui mets du poil à gratter dans son lit et lui ne sait jamais qui c'est. Je suis gentil quand je dis ça. Je veux dire, t'as fait, tu l'as chanara sur lui, tu l'as descendu, d'accord. Un beau jour, tu viens, écoute, je m'excuse. Hein. Bon, après la loi, au bout de 3 fois, il doit t'excuser. Mais ce n'est pas des façons. Je regrette ce que j'ai fait, je me rends compte maintenant ce que j'ai fait. Comment j'ai pu faire une chose pareille? Et tous les soirs, j'allais, je mettais aux endroits qui je savais que ça déclencherait beaucoup plus. Et j'essayais de calculer. Et je parlais la chanara sur toi. Et j'étais à cause de moi, tout le monde t'a haï. T'as dû changer de vie. Ta vie, ta parnassa, elle est partie. Vous comprenez? Il y a une différence entre faire une excuse qui est courte et une grande. Avec Dieu, à plus forte raison. Plus tu vas t'étendre, mieux c'est. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas valable de dire aussi en cours. En cours, c'est une excuse aussi. Donc l'essentiel. En le cours, tu l'as fait, et celui qui rallonge, mesure de piété, c'est digne de louange. De même, Maïmonide va nous dire ici que, à l'époque du temple, lorsqu'il y avait des sanctions pratiques pour certains péchés qui étaient faits, il y avait des sanctions, des fois, de mort. C'était rare, mais ça arrivait. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, il y avait la peine capitale. S'il y a eu 2 témoins, avertissement, etc., peine capitale. Pour d'autres péchés, il y avait peine capitale. On pourra dire, il va mourir, alors tout ça maintenant s'expier. Non, nous dit Maïmonide, s'il n'y a pas eu tchouva et vidouille, alors la mort, quelque part, n'a pas expié totalement. Il lui manque quelque chose. Donc avant de mourir, on allait le lapider, ou ça dépend, il y a 4 sortes de morts, d'accord, on ne va pas rentrer dans le détail actuellement. Alors, il devait faire tchouva et faire le vidouille. Ou bien des fois, pour certains péchés, on recevait les 39 coups. Il fallait faire le vidouille et la tchouva auparavant. En ce qui concerne la relation entre l'homme et son prochain, quelqu'un a fait du dommage à quelqu'un, il lui a cassé son vélo, il lui a cassé sa voiture, il lui a brûlé sa maison. Bon, ok, il faut payer. je paye, je m'excuse, insuffisant. Maintenant aussi, à Dieu, dire je regrette, faire la vidouille à Tchouva. Il y a, quand quelqu'un transgresse un péché envers Dieu, c'est envers Dieu uniquement. Quand il transgresse envers son prochain, il transgresse et envers son prochain et envers Dieu, parce que Dieu a interdit de faire du dommage à son prochain. Donc quand tu demandes pardon à ton prochain, il faut aussi faire Tchouva. Dieu, j'ai parlé à Shonara, j'ai roulé mon prochain, j'ai menti, je l'ai haï, etc. Toutes les choses, tout ce qu'on peut avoir, et il y en a beaucoup dans la Torah, d'interdiction envers l'homme et son prochain, il ne suffit pas de demander d'excuser son prochain et de le rembourser, il faut aussi faire tchouva et vidouille par rapport à Dieu. Du temps du temple, le Kohen Gadol, comme j'ai dit auparavant, il faisait un vidouille sur le bouc émissaire. Et ce vidouille expiait toutes les fautes du peuple d'Israël, à condition que le juif fasse tchouva. Si un juif faisait tchouva à l'époque du temple, il y avait le bouc émissaire, alors la tchouva, le bouc émissaire, expiait toutes les fautes du peuple d'Israël, soit les fautes graves ou fautes légères. S'il n'y avait pas de tchouva, néanmoins le bouc émissaire avait la faculté d'expier toutes les fautes légères. Qu'est-ce que c'est que les fautes légères? Vous allez voir, ce n'est pas léger du tout. Quelles sont les fautes graves? Fautes graves sont toutes les fautes qui sont sanctionnées par le karet ou par la mort du Bedin. Plus... Bedin, c'est le tribunal humain. D'accord? Il y a certains péchés qui sont sanctionnés par la mort du ciel. Mort du ciel, ce n'est pas considéré comme péché grave. C'est grave aussi, mais ce n'est pas dans... ce dont parle Maïmonide ici. Maïmonide parle des péchés très graves, on va dire, ce qu'on appelle très très grave. Et j'aimerais bien avoir la liste. Quelqu'un peut m'amener Maïmonide. Voilà, exactement. Donc les péchés graves, comme j'ai dit, sont les péchés qui sont sanctionnés par le karet, plus les péchés qui sont, bien qu'ils ne soient pas sanctionnés par le karet, jurés en vain et jurés de façon mensongère. Attention, c'est une maladie française, je crois qu'elle est unique au monde. Les Français jurent sans cesse. C'est interdit de jurer. Il ne faut jamais un juif orthodoxe normal dire je te jure, en plus je te jure par la tête de ma fille, la tête de ma mère, sur la Torah. Même si c'est vrai, je parle même si c'est vrai. C'est extrêmement grave de jurer. Si je jurais en mensonge ou jurer en vain, je jure que c'est un micro. Jure que c'est un livre, ça va, c'est idiot. Jurer, c'est faire participer Dieu à ce que tu dis. Je mets le tampon de Dieu sur ce que je dis. Même sans dire. Quelqu'un qui dit, je jure. Je te le jure. Je jure que c'est un micro, c'est interdit. Quand tu dis je jure, ça veut dire que tu impliques Dieu. Et Dieu s'implique. Alors quand c'est en vain pour un mensonge, c'est terrible. La seule fois dans le judaïsme où on jure encore actuellement, c'est la coutume sfarade en Israël dans la Ketouba. L'acte de mariage, le contrat de mariage, où l'homme jure de pratiquer toutes les. De respecter les engagements qu'il a eus, d'honorer sa femme, de ne pas quitter Israël sans son autorisation, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que si les gens savaient, sur quoi ils ont porté serment, alors Israël comporterait mieux avec leur femme. Donc ça, ce sont les péchés graves. Donc j'ai dit, ceux qui sont sanctionnés par le karet, plus jurer en vain ou de façon mensongère. C'est quoi karet? Alors ici, je vous ai amené le Maïmonide Ilchot Shigagot, qui va citer les différents cas de karet. Il faut au moins une fois dans sa vie écouter ce que c'est comme ça. Karet, c'est... Maïmonide écrit quelque part que c'est la vengeance la plus dure qu'il puisse y avoir. C'est pas qu'il y ait de vengeance chez Dieu, mais la sanction la plus grave qu'il puisse y avoir. C'est vraiment, karet signifie couper. Au niveau mystique, il y a 10 sphères. La sphère la plus haute s'appelle Keter. Keter, c'est la couronne de Dieu. Quand tu fais un péché sans connaître par le karet, tu touches là-bas. Karet, c'est la même lettre que le mot keter, mais inversé. Dans un sens différent. Ok, alors l'interdit sans connaître par le karet. Entre parenthèses, on ne transgresse un interdit de karet, donc on subit le karet, que si on le fait de façon préméditée, on sait que c'est interdit, et on sait que c'est karet. Si on ne sait pas que c'est karet, il n'y a pas karet. Donc ceux qui veulent fermer leurs oreilles, c'est le bon moment. Alors, un, relation avec sa mère, relation sexuelle, relation avec la mère de sa femme, donc sa belle-mère, relation avec la mère de sa mère, grand-mère côté maternel, relation avec la mère de son père, relation avec sa fille, relation avec la fille de sa fille, relation avec la fille de son fils, relation avec la fille de sa femme, c'est-à-dire, c'est pas forcément sa propre fille, mais c'est la fille de sa femme, deuxième femme. Relation avec la fille de sa fille, on n'a pas déjà dit ça ? Abba al-bat bito, abba al-bat bita. La relation avec la fille de la fille de sa femme. Tu t'es marié avec une femme qui a déjà une fille, mais pas avec toi. Toi, tu n'es pas le père de cette fille, et cette fille a une fille, avec la petite fille de ta nouvelle femme. Relation avec sa sœur, relation avec sa sœur qui est la fille de la femme de son père. Ça veut dire sœur par son père, mais pas par sa mère. Ok ? Relation avec sa tante qui est la sœur de son père, relation avec la sœur de sa mère, donc la tante par sa mère, relation avec la sœur de sa femme, relation avec la femme de son père, qui n'est pas forcément sa mère, relation avec la femme du frère de son père, la tante, mais donc la femme du frère de ton père, de ton oncle, relation avec une femme mariée, relation avec une femme nida. Donc une femme nida, c'est une femme qui, une fois dans sa vie, a eu une menstruation et qui n'a pas suivi le processus de pureté qui aboutit au mikvé. Qu'elle soit mariée ou pas mariée, importe peu. Donc toute femme juive aujourd'hui qui n'est pas mariée ou pratiquante, etc., elle est nida.
Pourquoi est-ce que tu as dit tout ce qu'il y a avant ?
On peut transmettre ça de plusieurs façons. Tu peux aller dire à ta mère, « Maman, j'ai une relation avec toi, va au mikvé avant. » Donc ça serait que ta mère n'est pas nida.
Est-ce que ça veut dire aussi que notre fille non mariée qui arrive à aller dans un mikvé ou suivre un processus de pureté,
absolument,
ça ne sera pas carré.
Ça ne sera pas carré. C'est pas que c'est permis. C'est pas permis.
Non, je ne dis pas que
c'est permis. C'est mieux vaut se faire tuer que de faire une chose pareille.
Hein?
Mieux vaut se faire tuer que de transgresser un péché pareil, d'après la Torah. Si un goy vient, te met un pistolet à la tempe, il dit, tu vas maintenant avec cette fille-là, qui n'est pas ta femme, et qui n'est pas mariée, et qui a été au mikvé, ou je te tue, là, la rat te dit, tu me tues. Parce que ça fait partie des trois interdits graves de Arayot. Partie d'Arayot. Bien que ce n'est pas sanctionné par le karet, c'est Arva, c'est interdit. Ok ? Mais c'est moins grave que karet. C'est moins grave qu'une femme mariée. C'est moins grave qu'une nida. C'est un lav d'oraita. Mais un lav d'oraita, c'est un interdit de la Torah qui est, que je dis, qui est mieux au certes que transgressé. Pas que... Ah bon, c'est pas nida, alors ça va. Non, non. Restons calmes. Donc ce qui est interdit, c'est bilat zanout. C'est une relation. De snooze, vous êtes des prostitutions, de concubinage, d'accord, comme ça pour s'amuser. Même 10 ans pour s'amuser avec la même femme, c'est interdit. D'accord. On ne peut pas avoir un ensemble avec une femme sans qu'il y ait eu kidushin, sanctification, une partie de ton âme rentre dans son âme et vous êtes unis. Là, c'est permis. Sinon, c'est interdit. C'est interdit. Il arrive à aller avant. Ok, on avance.
Par contre, Nida, par exemple, si on est sorti avec une fille, machin,
et non,
ouais. Si elle était Nida ou pas,
ouais.
Comment on fait maintenant nous?
Ah, comment réparer ?
Ouais, voilà.
Là que ça va. On va en parler tout de suite.
Non, on n'a rien fait avec. Mais rien que d'être avec, il ne veut pas être touché.
Ah, l'interdiction touche. Alors, toucher une Nida.
C'est pas, semble... pas qu'on allait loin.
Ouais. Toucher une femme Nida de façon affectueuse est interdit de la Torah. Mais là aussi, c'est Yarek, c'est pas Karet, mais c'est aussi Yarek Baléavor.
C'est quoi ?
Mais vous sortez que de transgresser cela.
D'accord.
S'embrasse, tient la main affectueusement. D'accord ? C'est marqué dans la Torah, l'autre ikrevou le galot erva. Vous ne vous rapprocherez pas, ce quoi se rapprocher de façon affectueuse, d'une erva, d'un interdit, cette femme est interdite. Voilà. Mais c'est moins grave que la relation, et c'est moins grave que la relation avec une nida. Ok, on avance. Relation homosexuelle. Relation avec son père. Donc il y aura les deux. Relation avec le frère de son père. Relation avec un animal. Ah 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 ah, vous rigolez. Et là, c'est des choses. Voilà. Relation d'une femme avec un animal. En tout, 23 interdictions d'interdiction sexuelle sanctionnées par le karet. À part cela, il y a encore 17 autres interdits qui sont Avodazara, idolâtrie. Idolâtrie, il y a. Idolâtrie. Alors, comment c'est quoi idolâtrie ? Idolâtrie, c'est servir une idole de la façon habituelle qu'on la sert. Par exemple, il y a certaines coutumes en Inde où, par exemple, quelqu'un va offrir ses cheveux, sa chevelure, en offrande à la statue, à l'idole. Quelqu'un qui fait cela, vu que c'est la façon habituelle de le faire, c'est une forme de karet. Il y a quatre sortes de services, pas dire divins, d'accord, mais de services religieux de avodah zara, d'idolâtrie, qui sont interdits, bien que c'est pas forcément la manière que les gens ont de la servir. Mais ça, c'est pas partout. Si quelqu'un transgresse une de ces quatre façons-là, de toute façon, c'est interdit. C'est se prosterner, sacrifier. Donc sacrifier. Deux. Troisième, les libations. À l'époque du temple, on versait du vin ou de l'eau sur l'autel. Et quatrième chose, c'est ktoret. Ktoret. Ktoret, c'est-à-dire brûler un encens. C'est les quatre choses qui étaient pratiquées dans le temple au Dieu d'Israël. Si on fait ces quatre choses, un autre Dieu que le Dieu d'Israël, même aujourd'hui, même au Dieu d'Israël, on n'a pas le droit de le faire, à part se prosterner à Yom Kippour. Si on fait une de ces quatre choses-là à une autre entité, tu le fais pour le soleil, tu le fais pour la lune, tu le fais pour Hare Krishna, pour je ne sais pas quoi, n'importe qui, d'accord, alors tu transgresses l'interdiction de Avodah Zara, d'idolâtrie. Oui.
Mais d'accord, c'est les Zara qui fait ça. Mais les Zara de Avodah Zara n'existent plus. Quand ils ont prié, les...
D'accord. D'accord,
il y a
regarde.
Il n'y a personne aujourd'hui, un juif qui dit bon, aujourd'hui, il y a Coca-Cola, je vais me contaminer.
Ok.
Il n'y a personne qui a réussi.
Si, il y a le bouddhisme.
Alors.
Et là aussi, bien sûr.
Attends, je réponds. D'abord, comme répond très bien Nathaniel, aujourd'hui, beaucoup, des centaines de milliers, voire des millions de personnes dans le monde font d'Avodah Zara. La chrétienté, c'est une question dans les poskim. Est-ce que ça, on appelle ça association ou carrément idolâtrie? Beaucoup disent que oui, c'est de l'idolâtrie. Mais en Inde, en Chine, au Japon, t'as presque ça. Ensuite, quand tu dis que Chazal ont annulé le Etzerara de l'Avodah Zara, de l'idolâtrie, c'est vrai. Mais regarde, c'est pas total, preuve en est. Il est marqué qu'ils ont voulu abolir aussi le Yetzerara des Arayot, donc des interdictions sexuelles, et ils ont vu que ça ne marchait pas. Le lendemain, il n'y avait plus d'eux, parce que le coq, il n'avait pas de relation avec la poule. Le bœuf, il ne regardait même pas la vache, d'accord, il était moche comme une vache, d'accord, il n'allait plus l'avoir. Plus rien. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est marqué qu'ils ont crevé un œil. Que l'attirance sera pour toutes les femmes, mais les gens de la famille, quand je dis maintenant avec sa tante, avec sa mère, avec sa grand-mère, vous faites tous des grimaces terribles. Pourquoi? Parce que le Yetzerara, il est parti. Maintenant, je peux te dire qu'il y a des gens qui font cela encore aujourd'hui. Bien sûr. J'ai entendu parler dernièrement d'un monsieur qui violait sa fille jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est courant. Courant. Donc, je te finis maintenant. Donc, on voit que malgré que maintenant Chazal en fait une action où ce Yetzerara n'existe plus, en relation avec sa fille, ou avec sa tante, ou avec sa grand-mère, néanmoins, c'est pas total. Celui qui veut, il peut, et des tordus, il y en a. Mais il y en a beaucoup, beaucoup moins. Tu n'as pas la même attirance pour ta mère que pour la voisine. N'est-ce pas? Alors que peut-être que ta mère est bien plus belle que ta voisine. Ceux qui disent, mais il faut être tordu pour penser à sa mère. Oui. Il faut être tordu pour faire Avodah Zara. Oui, mais il y a des tordus. Beaucoup de tordus. Ok?
C'est tordu, parce qu'à l'époque, ils ont reçu la génération qui a reçu la Torah, elle a fait
Avodah. Chaque chose qui va contre la volonté de Dieu est tordue. Maintenant, est-ce que c'est un tordu qui est normal parce qu'il y a un grand Yetzerara, et ça, donc beaucoup de gens le suivent et deviennent tordus? Ou bien c'est un tordu qui est anormal, et là le type il est super tordu. Donc je rectifie, il y a beaucoup de super tordus. On avance.
Pourquoi on n'a pas brûlé de l'encens?
Non, de l'encens, quand tu prends l'encens, tu mets dans ta chambre pour qu'il y ait une bonne odeur ou pour qu'il n'y ait pas l'odeur du shit, il n'y a aucun problème. À part le problème du shit. Je te parle maintenant, si tu fais tu encenses quelque chose pour, en l'honneur d'une idole. Voilà, j'allume pour Jupiter, j'allume pour Apollon, j'allume pour Hare Krishna. Pardon ? Oui, oui, autorisé. Ok, on avance, on va finir au moins la liste des carrettes. Alors, une autre idolâtrie qui était à l'époque, celui qui donnait de sa descendance au Molech, le Moloch. C'était une idolâtrie où on faisait passer un de ses enfants entre deux flammes. Il y avait deux feux, et entre les deux, le gosse passait. C'est une sorte d'idolâtrie qui est plus actuelle. Donc, ça est interdit. Baal Ov, c'est ce qu'on appelle en hébreu science, en français, spiritisme, parler avec les morts, carrette. Balidoné bemaase. Balidoné, c'est aussi un truc de magie. On prend un os d'un oiseau qui s'appelle Yadoa et on le met dans la bouche et il se met comme ça à parler. Un truc de magie comme ça, qu'il est interdit de faire, de sorcellerie plutôt. Transgresser le Shabbat pour un interdit de la Torah. Donc 39 travaux interdits le Shabbat. Celui qui fait une melacha, un des travaux interdits, comme Shabbat, mais il le fait à Yom Kippour. Celui qui mange ou boit à Yom Kippour, celui qui mange du notar. Notar, les sacrifices, devaient être consommés dans le temple. Ça dépendait des sacrifices. Une part des sacrifices devait être consommée jusqu'au lendemain matin, et d'autres pouvaient être consommées jusqu'au lendemain soir. Si la date de consommation est passée et on le mange, on transgresse un carré. Pour cela, notar. Ceux qui mangent du chametz, de la pâte fermentée, à Pessah. Ceux qui mangent du chaleb, ce sont certaines graisses interdites d'animaux cachers. Dans la vache, tu as beaucoup, surtout dans les parties arrières, c'est pour ça que dans beaucoup de pays, il y a le coutume de ne pas manger aucune partie arrière de l'animal, parce qu'il y a beaucoup de graisses interdites. Certaines d'entre eux sont soutenues par le carette, par exemple la graisse qui entoure les reins, ou une certaine graisse qui entoure l'estomac, dans la région de l'estomac. Toutes ces graisses-là sont soutenues par le carette. Celui qui boit du sang, pas n'importe quel sang, le sang qui jaillit lorsqu'on égorge l'animal, d'abord il y a un petit jet, après il y a un grand jet. Le sang de ce grand jet, lorsque l'animal meurt, celui qui le boit transgresse le karet.
Et si on boit sans faire exprès,
Alors si on transgresse un issur karet sans faire exprès, alors on est chayav khatat, on est sanctionné par l'obligation d'amener un sacrifice khatat, qu'on ne peut pas aujourd'hui amener. Néanmoins, l'obligation elle est là. On répare par la tchouva. Carrette aussi, on répare par la tchouva, mais c'est beaucoup moins grave. Ça descend d'un degré. En deux mots, on va voir plus tard qu'il y aura quatre niveaux de gravité. Chaque fois qu'on transgresse de façon involontaire, ça baisse d'un cran. Si tu as transgressé un interdit de gravité 3, de façon volontaire, si c'est involontaire, ça revient à la gravité 2. Celui qui mange du pigoule. Pigoule, c'est manger un sacrifice qui a été sacrifié de façon non conforme. Par exemple, on l'a sacrifié en pensant qu'on allait le manger après la date de consommation. Ou en pensant qu'on allait le manger hors du temple. Tout cela s'appelle pigoule. Donc des sacrifices qui ne sont pas aptes à être consommés, si on le mange, c'est interdit de karet. Celui qui égorge un sacrifice à l'extérieur du temple. Aujourd'hui, on n'a plus de sacrifice, mais on a encore quelques animaux qui sont sains. Quoi ? Tous les animaux qui sont les premiers nés du ventre de leur mère. Un mâle premier né du ventre de sa mère, il est sain. Si on l'égorge, on l'égorge. On transgresse interdit karet. Nous un temps, on voulait avec mes amis, Dolar Ben Chaim qui est ici, on voulait faire, il y a une mitzvah dans la Torah, de donner quand on a un animal qui appartient à un juif, de donner au Kohen trois parties d'animal. Zroa, c'est l'avant-bras droit, les chayaim, ce sont les joues avec la langue, et keva, l'estomac. C'est une mitzvah de la Torah. On voulait avoir un autre compte, cette mitzvah-là. On a acheté ensemble un mouton, on s'est dit, on a tiré au sort qui donnerait le bras, qui donnerait l'estomac, qui donnerait la langue avec les joues, chacun une autre partie. On a amené un des plus grands shochatim ici en Israël, d'Aharadit, pour qu'il nous fasse la shrita au noir, d'accord. On ne fait pas dans un champ comme ça, on doit faire dans les abattoirs, on est ici au noir et l'égorger. Lui vient. Et il dit, tout coup, il devient tout blanc. Est-ce que vous avez vérifié que c'est pas un mouton aîné ? Il dit, non. Il a failli transgresser un interdit de karet. On a vérifié après, donc on a vérifié, c'est aucun problème, il est revenu et on l'a fait. C'est extrêmement grave de dégorger un animal qui est premier-né à moi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On fait, on n'a pas le droit de le faire, mais... Quelqu'un ira dans les kibboutzim, mon religieux, etc., ou un goy, il va faire un moum, un défaut dans l'animal. Et d'après cela, l'animal devient impropre à être sacrifié, donc ça va. Par exemple, ils lui mettent un numéro sur l'oreille, clac, comme ça, ils font un trou dans l'oreille. Cet animal ne peut plus être sacrifié, donc il n'y a pas d'interdiction de l'égorger. On finit. Celui qui brûle en tant que sacrifice, un animal hors de l'endroit du temple, celui qui fait à but privé de l'huile d'onction. Les grands prêtres, ainsi que le Mashiach, sera oint avec une huile d'onction dont la recette est marquée dans la Torah. Tu dis, pour s'amuser maintenant, il fait un peu d'huile d'onction, et hop, il s'en met un peu comme ça, même sans le mettre. Il le fait de le faire, pas dans l'intention qui est permise, donc pour un prophète qui va oindre un grand prêtre ou un roi d'Israël, le Mashiach, c'est interdit par le karet. Celui qui fait la ktoret, l'encens qu'on amenait dans le temple, deux fois par jour, plus Yom Kippour, celui qui le fait comme ça, c'est interdit. S'il le fait pour le temple, c'est permis. Et enfin, dernière, celui qui met de l'huile d'onction sur lui-même. En tout, 43 interdictions de karet. J'ai déjà dit, je vais réexpliquer pour toi, c'est l'huile dont la recette est marquée dans la Torah qu'on utilise pour oindre un roi d'Israël, le Mashiach, ou un grand prêtre. Baruch Adonai l'Olam v'Amen.